Et notre invité ce matin, Chantal Emmehout, bonjour.
Bonjour.
Maire d'Embrun, présidente de la communauté de communes de Serre-Ponçon, deuxième vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge du plan montagne. Tout d'abord, Embrun et Serre-Ponçon sortent d'un été marqué par la sécheresse. Octobre n'aura guère été mieux, avec le mercure au-dessus des normales saisonnières et des précipitations qui n'étaient pas au rendez-vous, si bien qu'aujourd'hui, il y a un déficit pluviométrique de l'ordre de 80%. Comment on se prépare à un prochain épisode de sécheresse ?
Écoutez, on anticipe évidemment sur d'éventuelles périodes de sécheresse qu'on aura forcément. On espère déjà avoir un hiver froid et enneigé. Bien évidemment, donc on n'imagine pas le pire, mais on sait parfaitement qu'on aura de nouvelles périodes de sécheresse. Et par conséquent, avec le SMADECEP, avec l'ensemble des maires de la communauté de communes de Serre-Ponçon, nous travaillons déjà à l'accessibilité. Donc à une forme d'accessibilité différente de la part des usagers au niveau du lac de Serre-Ponçon pour qu'on puisse avoir des saisons touristiques normales malgré les périodes de sécheresse qui risquent de se renouveler malheureusement.
Et forcément ça renvoie au sujet du réchauffement climatique, du changement climatique et ça renvoie aussi aux économies d'énergie et notamment le plan de sobriété énergétique adopté par la région PACA qui veut d'un côté baisser la consommation d'énergie de 10% dans tous les établissements, et de l'autre côté, augmenter la production d'énergie renouvelable. Par exemple, d'ici 2024, 56 lycées sur les 174 seront équipés en panneaux photovoltaïques. Est-ce que ça concernera les Alpes du Sud ? Est-ce qu'on sait déjà quels lycées pourraient être concernés par ces projets ?
Alors, bien sûr, ça concernera les Alpes du Sud, puisque nous sommes des départements, les trois départements alpins, du sud extrêmement ensoleillé et par conséquent nous envisageons très sérieusement d'utiliser des panneaux photovoltaïques. Pour l'instant, nous n'avons pas encore choisi les lycées qui seront dotés d'équipements, ça va se faire très vite, en sachant que par exemple au niveau du lycée d'Embrun, le lycée est connecté à la chaufferie bois de la ville d'Embrun que nous avons réalisé il y a quelques années. Donc les énergies renouvelables, c'est le photovoltaïque, mais c'est également l'utilisation du bois et d'autres types d'énergie de façon à ce que là aussi, nous puissions être vertueux et rentrer dans le cadre de la sobriété, du plan de sobriété énergétique de la région qui concerne les établissements scolaires parce qu'ils sont très consommateurs d'énergie, mais qui concerne également donc toute une série d'autres activités de façon à ce que nous apprenions à consommer moins et à consommer différemment.
Alors, Embrun, ça y est, c'est tranché. Ça a été l'un des gros titres de l'actualité la semaine dernière. On ne va pas reconstruire un nouvel hôpital, mais on va réhabiliter l'actuel qui sera opérationnel d'ici 6 ans, 15 millions d'euros de l'État, 3 millions de la région. C'était plus simple de choisir la réhabilitation plutôt que la reconstruction. C'était moins coûteux, peut-être ?
Alors, en fait, je dirais que c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'était de sortir de ce tunnel avec un hôpital d'Embrun vieillissant qui était inadapté, beaucoup trop grand, avec des surfaces inutilisées et qui engendraient des coûts de fonctionnement qui étaient très élevés. Donc l'hôpital ne pouvait plus assumer. Ça a forcément entraîné sa remise en question. On a eu des périodes de grande crainte, de disparition. Évidemment de nos urgences, de la radiologie et en cascade du centre hospitalier d'Embrun. Donc il fallait absolument qu'on sorte de là et moi je suis vraiment depuis plus de 20 ans en tant que maire et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital très impliquée dans ce dossier avec le personnel de l'hôpital, la direction et nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied pour qu'on trouve une solution. Alors pour répondre à votre question, est-ce que il valait mieux construire à l'extérieur ou réhabiliter ? Oui. Il y a eu toute une série d'études et les dernières qui ont rendu leurs résultats, leur verdict il y a 2 semaines environ, ont démontré que finalement la topographie de l'Embrunet était d'une telle complexité entre les risques naturels, les inondations, les glissements de terrain, etc., qu'aucun terrain extérieur, donc à celui que l'on connaît aujourd'hui, qui reçoit l'hôpital d'Embrun, ne faisait l'affaire. Alors, trop de complexité urbanistique, juridique et autres. Et c'est par conséquent la solution de la reconstruction sur site qui a été choisie et qui me va très très bien puisque c'est la proximité, on ne change pas les habitudes et que globalement au niveau du coût, ça paraît donc un peu moins cher qu'une construction neuve, mais vous savez, dans la réhabilitation, on risque d'avoir des surprises. Oui. Le prix n'a pas été l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est la simplicité par rapport à la complexité des autres sites.
Et le signal fort qui a été donné, c'est le scanner, enfin. Enfin, parce que ça fait depuis des années que vous demandez un scanner.
Tout à fait. Donc moi, je suis très mobilisée sur le dossier du scanner. J'ai été vraiment très accompagnée et aidée par la région, par son président Renaud Muselet, qui est par ailleurs médecin, qui m'a beaucoup aidée dans ce dossier, bien sûr avec l'ensemble des maires des communes de la Comcom, le personnel de l'hôpital. On a beaucoup œuvré pour obtenir ce scanner. On l'a eu. Et région qui d'ailleurs accompagne aussi les crédits de l'État, 15 millions d'euros, qui est le résultat d'un travail collectif, aussi le résultat de différentes rencontres que j'ai eues avec les premiers ministres successifs. Alors, bien sûr, avant Édouard Philippe, mais Édouard Philippe que j'ai rencontré spécifiquement sur le sujet de l'hôpital, ainsi que Jean Castex, qui a pris la peine de venir ici et qui nous a annoncé la bonne nouvelle du déblocage des crédits de l'État, 15 millions d'euros, accompagné par les 3 millions d'euros de la région.
Alors, un dossier qui concerne justement l'hôpital, qui est national pour autant, c'est le projet du gouvernement de prolonger d'une année les études des médecins généralistes, une année pour qu'ils puissent exercer dans les déserts médicaux et qu'ils peut-être qu'ils s'implantent dans ces territoires. Selon vous, c'est la solution? Rapidement, alors, Chantal Emeaud.
C'est une solution qui met très très en colère les jeunes internes, et je les comprends tout à fait parce que donc les études sont déjà très longues. Avec une grande complexité, des indemnités qui sont peu élevées, et c'est sûr que globalement on leur fait faire un job de médecin déjà installé. Donc je comprends tout à fait leur colère. En même temps, c'est un sujet d'une grande complexité. Comment arriver à faire venir des médecins dans des territoires ruraux ou d'ailleurs dans des territoires urbains, mais moins attractifs que d'autres, parce qu'il n'y a pas que la ruralité qui est confrontée au manque de médecins. Il y a aussi certaines villes qui aujourd'hui se heurtent dans certains quartiers à l'absence de médecins. Mais passer en force, je ne suis pas certaine que ça soit la bonne solution.
Alors, dernière question. Embrun va-t-elle enfin voir le train passer? Je parle du train pendulaire, hein, ce tram-train qui relierait Vennes à Embrun. Plusieurs élus l'appellent de leur vœu, notamment la communauté d'agglomération de Gap-Talard-Durance. Jean-Pierre Cyrus, qui est vice-président en charge des transports, avait annoncé sur Alpe 1 la fin d'une étude pour le second semestre 2022. Vous l'aviez dit, il va y avoir des négociations avec la SNCF, mais pour ce tram-train d'ici l'été 2023, on en est où aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on va parler d'un train pendulaire touristique ou d'un train pendulaire pour les travailleurs?
Alors l'objectif, c'était de tester un train pendulaire pour la période estivale, mais globalement, on se dirige progressivement vers un train pendulaire à l'année, ce qui serait évidemment plus pratique. Alors, je ne sais pas s'il partira de Vennes jusqu'à Briançon, ce serait évidemment l'idéal. On va certainement tester plusieurs tronçons. Des études sont en cours de réalisation, mais ce train pendulaire verra le jour. Le seul sujet aujourd'hui, donc pour moi qui suis vice-président de la région, dans ce département des Hautes-Alpes, très attaché également à faciliter le transport de nos concitoyens dans un territoire de montagne, il faut absolument que ça puisse aller vite. Je ne pense pas que le train sera mis en place pour l'été 2023. Je pense plutôt dans les années 2024 ou 2025. Malheureusement, on l'aura pas avant, même si on rajoute des cadencements sur la ligne entre Vennes et Briançon. On va progressivement rajouter des trains.
Donc ce sera bien, en tout cas, un tram-train quotidien pour les travailleurs. Est-ce qu'on va parler aussi de réouverture de gare? Par exemple, la Roche des Arnauds, la Fraissinouse ou encore la Bâtie-Neuve?
On n'en est pas là aujourd'hui. Probablement que ce sont des petites gares qui seront amenées à rouvrir un jour ou l'autre. Je ne peux pas m'engager sur un calendrier, mais il est évident qu'aujourd'hui, c'est la proximité qu'il faut privilégier. C'est faciliter le transport collectif. On le voit avec le réchauffement climatique, la crise énergétique. De plus en plus, nous avons besoin de faciliter les transports en commun et la région aura un rôle important à jouer. Le président de la région le sait. Barnier, le vice-président en charge des transports le sait également, et moi-même œuvre donc à leur côté pour accélérer ce processus de transport collectif par train.
Merci beaucoup Chantal Emeaud d'avoir été avec nous ce matin.